Bien, bonjour chers auditeuristes de Radio Campus et merci Brice de nous laisser un peu de temps d'antenne pour faire une petite review d'un festival qui avait lieu à Namur fin de semaine dernière, donc là jusqu'à dimanche 31, où je n'ai pas pu y aller, mais comme vous l'avez tous et toutes écouté jeudi dernier, Hélène Buguin est avec moi, a traversé le programme avec moi et surtout tu as pu aller à Namur samedi voir quelques trucs. Est-ce qu'il faisait beau déjà?
Il faisait très beau. Namur, c'est très joli. J'ai été charmée. Le festival se déroulait au Théâtre de Namur, donc grande bâtisse avec ses colonnes et ses décorations. Donc, tout était propice à de la littérature, bien évidemment. Et puis, donc, oui, l'Inutile Festival, donc l'Intime Festival, bien, il s'appelle comme ça dans leur caption Instagram, mais ça englobe bien l'idée de mettre de la littérature de l'avant, mais de manière aussi un peu détournée. Par exemple, dans les activités, il y avait l'exposition « Saisir la vie partout » de Viviane Maillard. Il y avait aussi d'autres activités comme un cabaret radio auto-divine. Mais les activités que je suis allée voir, puisque je sais que ça t'intéresse.
C'est ça. Moi, j'étais curieux. Il y avait vraiment plein de trucs. Toi, en fait, tu avais eu l'info à part les réseaux d'une autrice que tu connaissais. Donc, tu connais le livre Marché un peu en ce moment à Montréal, en tout cas, dans ta sphère. Donc, c'était « Ah, elle passe, il va avoir une lecture. » C'était Adèle Lyon,
ouais.
C'était ça. Et donc, ça a été la porte d'entrée de s'intéresser à ce festival à Namur que je ne connaissais pas. Donc, vas-y, raconte-nous alors.
Oui, mais avant d'arriver à Adèle Lyon, qui était la dernière activité de la journée que je suis allée voir samedi, avant ça, au début de l'après-midi, il y avait les éditions Frémoc qui avaient une carte blanche, donc une lecture musicale de tous leurs textes avec projection d'images, qui englobe très bien leurs propositions, mais il y avait aussi sur scène un décor avec des toilettes genrées, une dame pipi, donc il y avait vraiment une mise en scène, il y avait un saxophoniste qui cassait un peu les oreilles, donc ça donnait une ambiance, un paysage sonore quand même assez particulier.
Donc, qui se baladait dans le décor, c'est ça un peu?
Oui, ça dépendait des performances, donc soit par exemple dans celle de Thierry Von Hasselt, si je ne massacre pas leur nom, il interrompait parfois, il jouait de la musique par-dessus la personne qui parlait, mais donc ça faisait plus que didactique, c'était vraiment multidisciplinaire.
Performatif donc.
Performatif, oui, vraiment. Puis ça permettait d'entrer dans... La BD, c'est quand même quelque chose d'assez statique en général, mais là, ça permettait justement... Les images défilaient assez rapidement à l'écran pendant qu'ils présentaient leurs œuvres de manière un peu plus aussi imagée, comme ça, une présentation.
Et du coup, c'était donc Thierry Van Hasselt qui présentait une de ses bandes dessinées en parlant ou plusieurs de ses bandes dessinées?
Pour le coup, c'était la bande dessinée La véritable histoire de Saint-Nicolas, donc une subversion du mythe de Saint-Nicolas, donc une progression à travers des paysages typiquement belges, mais qui sont bien sûr marqués par le capitalisme, dont des publicités, des déchets, l'agriculture, donc beaucoup de fonds décédés, par exemple. Puis, sans spoiler, bien évidemment, ils croisent, par exemple, un camp de migrants avec des enfants. Puis, en fait, ça suit un petit peu ce mythe-là de Saint-Nicolas, qui, en fait, était un saint qui se sacrifiait pour les enfants. Donc, ça rappelle un peu l'origine de cette figure-là, mais à travers vraiment un dessin qui était assez émotif, je pourrais dire. Juste, à chaque page, il y avait deux cases énormes. Et puis, mais c'est ça, avec la performativité, avec la musique, ça crée quelque chose de très, très intime, justement.
Et lui, il racontait la bande dessinée ou il parlait d'autres choses, de son travail? C'était un texte un peu qu'il récitait ou...
Un peu la genèse de l'histoire, c'est ça qui était intéressant, c'est que, bon, il y avait la bande dessinée qui a sa narrativité en elle-même, mais avec justement la personne qui parle un peu de ses inspirations, de qu'est-ce qui l'a mené jusque-là, puis ensuite, la performance arrêtait un peu pour là avoir une présentation plus didactique, donc ça complétait quand même assez bien. Mais donc, il y avait Thierry, mais il y avait aussi Dominique Goblet, puis la troisième personne que je vais peut-être... Erchil, ah, super.
Ouais, tout à fait.
Bon, puis donc eux aussi, elles aussi présentaient un peu de cette même manière, donc ça permettait quand même quelque chose de fluide. Puis donc, c'est ça, une rencontre avec la littérature qui était aussi libre et audacieuse que sont leurs maisons d'édition. Donc, oui, c'était très pertinent pour ça. C'est une bonne manière de commencer le festival.
Oui, et puis trois styles différents. Moi, je te posais les questions parce que, trois auteuristes de bande dessinée, voilà, Thierry Van Hasselt, t'as un trait plus presque classique, on reconnaît le dessin. Dominique Goblet qui change souvent de technique et qui est plus un dessin expérimental. Et Hercel, c'est plutôt, il est connu pour le travail avec Kamagurga sur Cowboy Hank, donc un trait plus simple et aussi un autre type d'humour. Donc ça devait être. Voilà, j'étais très curieux de voir comment ça pouvait se passer de parler de bande dessinée dans un festival de littérature. Donc.
C'est une question qui me tracassait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait un détour en arrivant. Je me suis dit, je ne peux être que surprise. Donc c'est ce qui a été le cas. Puis oui, ça gardait quand même son dynamisme pour le coup.
Il y a du monde au festival?
Il y avait énormément de gens. Il y avait quand même vraiment beaucoup de gens. La plupart des salles étaient assez remplies. Puis, la deuxième activité, c'était à la bourse, qui était juste à côté, ce qui était très drôle parce qu'il y avait aussi, entre les deux, une activité très culturelle namuroise. Je ne pourrais pas saisir, mais je pense qu'ils lisaient un nouveau pape figure. Les gens étaient habillés en bleu. C'était très compliqué. J'étais très subjuguée. C'était très médiéval typique, ouais. Oui, bref.
Une autre activité culturelle, rien à voir.
Rien à voir, mais bon, c'était une ville très, très vivante, donc. Mais en allant, donc, c'est ça, la deuxième activité, qui était une mise en lecture avec Hélène Zimmer, qui a écrit un roman, par exemple, sur un peu l'éco-anxiété, mais à travers un roman procès. Donc, c'est une, si je retrouve le titre, bien sûr, du livre, hein, parce que c'est sûr que je l'ai sous la main, voilà. Non, je ne l'ai pas du tout, en fait. Non, mais c'est ça. Je peux raconter un peu c'est quoi le titre. Donc, c'était une professeure qui fait lire un livre sur l'éco-anxiété, sur un peu les problèmes environnementaux à ses élèves, mais de manière peut-être un peu appuyée. Donc, les parents, la direction, l'État se retrouvent à un procès contre cette personne-là pour savoir les limites de, justement, imposer ses idéologies, mais aussi par rapport à la fin du monde. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion, il parlait de, par exemple, l'origine de la littérature, qui était de, bien sûr, consigner les ressources, donc à la fin des vendanges et tout, mais donc les limites de la littérature, qui serait un petit peu, en fait, la même chose. Donc, sans ressources, en fait, il n'y a plus de littérature.
À consigner un monde qui brûle, un peu comme ça.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y avait un peu le « à quoi bon » que le livre touche un peu. Et puis, c'était des interventions entrecoupées par des mises en lecture par une comédienne, justement. Puis, donc, c'était quand même assez dynamique. Puis, le public était très réactif. Donc, c'était somme toute intéressant. Hélène Zimmer, qui a aussi fait des films. Donc, c'est une réalisatrice. Donc, un point de vue intéressant sur le monde.
Et la comédienne, qu'est-ce qu'elle faisait pendant la lecture? Ou...
Mais c'est vraiment une mise en lecture, mais assez énergique, là, comme... Okay. Ce qui peut être un peu différent des personnes qui écrivent, qui sont peut-être moins dans la performance orale, mais c'est bien, justement, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit une autre personne qui lise plus que l'auteur, l'autrice. Donc, ce qui je rappelle ce que je disais au début, que c'était vraiment quelque chose de très multidisciplinaire, même dans la littérature en soi.
Ouais, l'intime festival, on pourrait penser à des toutes petites formes très simples et tout. Donc, du coup, ça a l'air beaucoup plus grand spectacle, un peu comme ça, en tout cas. Pour en même temps parler quand même de sujets plutôt très proches.
Oui, ben c'est ça. C'est exactement ce que je me demandais. Parce que moi, bien sûr, quand j'ai vu l'intime festival, moi étant friand de autofiction et de tout ce qui est authentique, je me disais, pour moi, ça faisait un peu punk, justement, qui sont dans les choses plus... trash plus proche de la vie, mais que ce soit des personnes un peu plus... qui pourraient se réclamer de la grande littérature, mais qui rendent ça quand même assez, assez proche du public. Puis peut-être que là, ça pourrait me permettre de parler de la performance d'Adèle Young, mais en fait, le spectacle. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était c'est sûrement écrit quelque part dans la description. J'ai peut-être pas accroché, mais c'était vraiment une performance en tant que telle. Moi, je pensais que justement, ce serait une performance mise en lecture, mais ça a commencé en fait comme une rencontre typique, donc personne qui pose des questions, personne qui répond. Moi, j'étais au quatrième étage, bien sûr, moi, je voyais très bien, pas très bien qui était sur scène, Donc la personne commence à répondre normalement, puis tout d'un coup, verse un verre d'eau. Et puis, boit dans le verre d'eau, mais penché sur la table, sans manière. Donc, c'est un peu, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe?
Tout en continuant à répondre.
Tout en continuant à répondre, comme si, et la personne qui pose la question est aucunement unfazed,
Comme si de
aucunement
rien n'était.
dérangée, comme
Ah
si de
oui.
rien n'était. Puis, donc, la performance continue un peu, la personne se lève sur sa chaise, tourne le dos au public, parle dans le vide, mais tout en parlant de la maladie mentale. Donc, il y avait quelque chose d'un petit peu accrocheur. Puis là, tout d'un coup, ça dit que la personne déclare qu'elle n'est pas Adèle Lyon, qu'en fait, oui, c'est sa voix, c'est ses lèvres et tout. Mais donc, je pense qu'Adèle Lyon, soit parlait dans son oreille ou parlait proche, mais donc, elle retransmettait la voix d'Adèle Lyon. Puis là, on rentre dans la performance, donc ils enlèvent les chaises, on a des bouts de films, de famille avec la voix, parce que c'est des archives, en fait. C'est Adèle Lyon, c'est le roman Mon vrai nom est Elisabeth, qui est une enquête sur sa grand-mère qui était schizophrène et dont la famille ne parlait pas. Mais donc, c'est ça, en faisant l'enquête, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de violences faites aux femmes par rapport surtout à la psychiatrie, que c'était une femme qui avait une vie dure, qui avait eu une lobotomie. Puis, ben c'est comme Adèle Lyon rentre dans ce sujet-là en ne sachant pas du tout c'est quoi une lobotomie. Donc, c'est vraiment se confronter à tout ça. Donc, c'est ça la performance. En fait, c'était pas nécessairement de lire le livre, mais c'est de parler de cette recherche-là. Donc, par exemple, elle était en robe de mariée à parler de la place du mari de cette femme-là, qu'en fait, ils ont eu des contre-indications de ne pas faire cette chirurgie-là, mais qu'en tant que patriarche, elle a quand même décidé de le faire. Donc, c'était quand même assez, c'est ça, très proche du texte. Puis, ça permet de ça d'avoir des compléments de lecture quand même assez riches. Puis, je pense que ouais, ça a fini avec, il y avait des boîtes sur scène. Puis Adèle Lyon a repris ces boîtes-là pour refaire le portrait de cette grand-mère. Donc, ouais, c'était vraiment très, encore une fois, dans la multidisciplinarité, puis pour vraiment compléter le texte, pas nécessairement justement que le mettre de l'avant, mais de puiser dedans pour créer quelque chose de nouveau complètement, là.
Donc ça, c'était malheureusement tout ça s'est raté. C'est une fois par an fin août à Namur, à l'Intime Festival. C'est 5 jours, mais surtout finalement un week-end. Peut-être un petit mot sur le bout des Ateliers du Tonnerre. Qu'est-ce que tu as vu? Il y avait aussi une expo de photos. Tu as vu des petits bouts, mais bon, voilà, t'as pas pu tout faire.
Ouais, non, exactement. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui étaient quand même assez plaisantes. Mais oui, les ateliers du tonnerre, donc, qu'entre deux représentations, j'ai pu aller visiter. Ils ont déposé plusieurs exemples de leur production sur des tables avec des bonnes explications de la démarche artistique de la personne. Je pense même qu'il y avait comme un zine explicatif et une vidéo qui montrait, qui feuilletait le zine explicatif. Donc, il n'y avait aucune raison de pas en prendre connaissance. Et il y avait une citation où tu pouvais noter ton ressenti du festival. Donc, avec il y avait une photocopieuse, il y avait des programmes du festival pour écrire dedans, tu pouvais dessiner et tout. Puis en plus, ils pouvaient parler de c'est ça, leur atelier en tant que tel, des services qu'ils offraient. Donc, ben, je trouvais ça intéressant. Ça permet de justement mettre de l'avant des artisans aussi à travers ça, puis pas nécessairement garder ça dans la performance ou la scène, là.
L'artisan du livre, là où du coup tout le reste est sur le texte.
Oui, exact.
C'était ça. Et Viviane Meyer, t'as vu un petit bout ou...
J'ai
Non.
vu des petits bouts, mais c'est ça exactement. On peut pas. Si seulement j'avais passé plus de temps à Namur, j'aurais pu. Mais oui, elle a bien été mise de l'avant. Puis, ce qui était, en tant que personne qui fait de la photo, une photographe de rue assez reconnue. Puis, il y avait aussi des BD à son propos qui étaient vendus à la librairie. Donc, oui.
Je pense que c'est le fait par ah ben voilà, une Belge dont son nom m'échappe. Excusez-moi, mais voilà, qui s'appelle Viviane Meyer, un très voilà, elle a été connue pour ça. Oh. Dommage. Ben voilà, un autre nom raté et on va comme ça, on va finir dans les ratés. C'est ce qu'il y avait du coup dimanche 31. On pouvait pas tout y aller et j'aurais quand même été curieux de voir ces trois lectures performées drôles, singulières par des jeunes auteurs issus du milieu du cinéma et de la musique. Dont Clément Delhomme et Harpo Guitte. Clément Delhomme, musicien avec une beaucoup de textes qu'il sait déclamer et qui sont assez genre truculents. Je pense que c'est le mot Harpo-Guit qui est connu pour avoir scénarisé avec son frère Fils de Plouc et Aimer Perdre. Et puis Justine Fabre, diplômée de la Aide à Genève. Cinéaste en master en narration spéculative à l'ERG. Elle y explore notamment la performance et la vidéo. Donc ça, on n'y a pas vu. On ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, on va écouter un morceau de Clément Delhomme, du coup, pour terminer cette petite entrevue sous son nom du groupe Vivre avec un chien et un fusil. Merci Hélène.
Merci Nico.
Et puis, bah, on va te retrouver dans les prochaines matinales par je ne sais quelle autre chronique. Mais puisque tu es là un mois en Belgique... Je te dis à bientôt.
À bientôt.
Et on peut dire à bientôt à Brice. Bisous, Brice. Bon matin. Nous, on va dormir.